un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Le terme lanceur d'alerte apparaît à la fin du siècle dernier, mais on commence à mieux les connaître à partir des années 2000 et des premières leaks de Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning et chez nous, d'Irène Frachon dans le domaine médical. Autant il ne fait pas bon aux États-Unis divulguer des informations liées à la défense ou au renseignement, autant une soixantaine de pays sont censés pourvus d'une loi pour les protéger, les lanceurs d'alerte. En France, nous avons même depuis 2017 un guide officiel des lanceurs d'alerte, rafraîchi cette année par Claire Hédon, la défenseure des droits. Il a pour but de faire connaître leur statut et de permettre à chaque personne pouvant y prétendre de bénéficier de la protection assurée. Pour cela, il faut faire certaines démarches décrites dans le guide, mais surtout avoir un danger, un risque, quelque chose de répréhensible à signaler qui soit contraire à l'intérêt général. Il faut également être une personne physique, ne bénéficier évidemment d'aucun avantage financier lié au signalement et être de bonne foi. Pourtant, dans l'histoire qui nous occupe aujourd'hui, le lanceur d'alerte a beau avoir été français et rempli tous ses critères, il lui faudra pratiquement 10 ans pour être reconnu comme tel. Voici ce qui lui est arrivé au micro de Rémi Dibowski-Douat, Raphaël Allais, lanceur d'alerte des LuxLeaks.
Je m'appelle Raphaël Allais, j'habite dans les environs de Metz, donc en Lorraine. J'ai grandi dans la Meuse, au sein d'une famille dans la campagne. Il y a une histoire familiale assez particulière. Ce sont mes grands-parents qui m'ont recueilli dès la naissance et qui m'ont élevé. Mes parents ne pouvaient pas à l'époque le faire. Mes grands-parents, pour l'un, étaient instituteurs, l'autre travaillait aussi dans l'éducation nationale. J'ai d'ailleurs beaucoup de personnes dans ma famille qui ont travaillé pour la fonction publique. Et c'est quelque chose qui est assez particulier puisque je suis élevé donc par des grands-parents qui ont une génération d'écart par rapport à mes copains de l'époque qui eux sont élevés par leurs parents, donc des personnes qui ont 20 ou 30 ans et qui ont connu mai 68, etc. Mes grands-parents qui l'ont connu aussi, mais ont surtout eux connu la Deuxième Guerre mondiale, donc ils ont des valeurs, on va dire, peut-être un peu différentes ou en tout cas un peu plus strictes. En plus, c'est un département où j'étais, la Meuse, qui est chargé en histoire en termes de guerre. Verdun n'est pas loin, les Éparges sont tout près, Saint-Mihiel, etc. sont des lieux de bataille, de mémoire. Donc c'est quelque chose qui, quand on est meusien, quelque chose qui est en permanence présent. Du coup, on entend beaucoup parler de guerre, de patrie, d'honneur, de résistance, de devoir, etc. Ça m'a beaucoup bercé et accompagné parce que ce sont des personnes dans ma famille qui ont vécu ça, qui l'ont vécu directement, donc qui pouvaient le raconter. J'ai des personnes qui ont combattu les Allemands, les nazis, qui ont fait des choses assez héroïques, qui n'avaient peut-être pas conscience à l'époque parce que pour elles c'était normal de résister ou de défendre leur pays. Pour moi, ça me semble normal de défendre son pays sans avoir à réfléchir, sans faire d'arrière-calcul. Après l'enfance, adolescence classique, aussi dans la Meuse, lycée, baccalauréat, université. À 18 ans, je me lance en tant que photographe avec un ami. Donc, photographie noir et blanc pour les entreprises, pour de l'édition. Donc, quelque chose qui est à un petit niveau en tant qu'indépendant, on va dire. Ça dure quelques années jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001. Le marché de la photographie avec ça et avec l'arrivée en même temps de la photo numérique est totalement bouleversé. Donc c'est beaucoup plus difficile pour un photographe indépendant d'en vivre, en fait, tout simplement. Du coup, on décide d'arrêter. Et puis, comme toute personne qui arrête une entreprise, il faut payer les charges qui sont en cours. Moi, je décide pour rembourser les dettes, de faire quelques petits boulots à droite à gauche, en intérim, des missions. Et j'ai fait une mission à l'automne 2006, au Luxembourg. Dans une entreprise que je ne connais pas du tout, qui s'appelle à l'époque PricewaterhouseCoopers Luxembourg, en abrégé PwC. C'est une entreprise qui est en fait un cabinet d'audit de conseil fiscal. d'une manière beaucoup plus simple, parce que je ne connaissais donc pas cette activité à l'époque. C'est une entreprise qui fait du conseil aux entreprises, de l'audit, du commissariat aux comptes, de la comptabilité en fait, et l'expertise financière. Et en travaillant au Luxembourg, je découvre en fait deux univers. Le premier, c'est ce milieu de la finance ou de la fiscalité internationale que je ne connaissais pas du tout. Et un autre univers qui est le Luxembourg. J'ai peut-être été une ou deux fois à l'époque, mais pour la journée en tant que simple touriste. C'est l'un des pays les plus riches du monde. C'est l'un des pays qui a le PIB par habitant le plus élevé. Donc je découvre ce monde-là, mais j'ai aussi l'autre monde qui est celui où j'habite, près de Metz, qui est celui de la campagne, un petit village. Et je suis travailleur frontalier, comme 150 000 autres à l'époque, où je fais cette distance, c'est-à-dire 100 km. On passe d'un monde à l'autre deux fois par jour, matin et soir. Et c'est quelque chose qui, au début, surprend pas mal, parce que c'est deux univers différents, il faut s'adapter. Et là, il faut vraiment faire preuve de flexibilité et puis d'ouverture. Le monde de PwC, la finance à l'époque, c'est un peu le même que maintenant. C'est un peu ce qu'on voit dans les films américains, c'est-à-dire des grands immeubles en verre. Paradoxalement, il y a beaucoup de transparence dans les immeubles, dans les apparences. Tout est en verre, en métal, etc. Et au quotidien, le travail est beaucoup plus cloisonné. Une équipe A ne sait pas ce que fait l'équipe B, qui est pourtant à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres. C'est quelque chose qui est assez particulier. On travaille énormément dans la compétition, sous pression. L'argent n'est pas du tout un problème. Par contre, ce qui compte, c'est de satisfaire, comme on entend souvent à l'époque, c'est de satisfaire le marché. C'est un salaire correct pour le Luxembourg. C'est un salaire assez élevé par rapport à la France. C'est pour ça que beaucoup de frontaliers français vont travailler soit en Suisse, soit au Luxembourg. Et le salaire très correct, c'est une chose. Ce qu'il faut voir aussi, surtout en 2006, c'est qu'il y a énormément de contraintes pour aller à Luxembourg. 2h30 pour faire 100 km, énormément de bouchons donc, les frontaliers connaissent bien ça, énormément de pression, au Luxembourg c'est 40 heures par semaine et non pas 35, et quand vous travaillez dans une entreprise comme PwC, c'est une entreprise, une multinationale, à la mentalité anglo-saxonne, américaine, donc c'est pression, c'est efficacité et rentabilité maximum. Je commence à rentrer comme assistant personnel. Je m'occupe donc de plusieurs personnes, tout ce qui concerne leur logistique, leur conférence, leur déplacement à l'étranger, leur agenda, leur courrier, leurs documents, etc. Au début, on découvre énormément de logiciels, de procédures, de manières d'être efficace, d'être proactif, comme on disait à l'époque. C'est quelque chose qui est un peu comme attaché de direction. On est très proche de chefs de différents niveaux et on doit faciliter la tâche. Ensuite, au bout de quelques années, j'évolue, je passe dans une autre équipe. Je suis officieusement team coordinator, c'est-à-dire chef d'équipe. Cette fois-ci, c'est une équipe qui fait des projets transverses. Pour tout le département taxe, c'est-à-dire fiscalité où j'étais, environ 300 personnes, cette équipe va faire gérer des documents fiscaux qui vont être envoyés aux clients, parmi lesquels les tax rulings ou déclarations fiscales. Et puis là, il se trouve que, en fait, sans le savoir, à ce moment-là, je suis au cœur de réacteurs nucléaires, de tout ce qui est le conseil fiscal, et notamment de l'optimisation fiscale pour payer le moins d'impôts possible. Devant un autre point de vue, ça va être de l'évasion fiscale. Ça, j'en aurai conscience un peu plus tard. En mai 2012, donc là il s'est passé quelques années chez PwC. Mai 2012, je suis chez moi, je vois un reportage à la télévision de Cache Investigation, donc sur France 2, et c'est ce reportage qui m'ouvre les yeux sur ce que je fais au quotidien. C'est assez particulier parce que je vois à la fois des personnes aux endroits que je connais très bien à l'écran, c'est ceux où je travaille, je vois ces documents qui me passent dans les mains au quotidien, que je reconnais très vite. Et puis, c'est une énorme prise de conscience, parce qu'avec les explications des journalistes et des interlocuteurs du reportage, j'assemble toutes les pièces du puzzle que j'avais jusque-là et qui étaient éparses et pas emboîtées. Donc, je prends conscience de l'ampleur et j'ai une vue d'ensemble du système d'optimisation ou d'évasion fiscale. Je vois passer donc au quotidien énormément de tax ruling, de déclarations fiscales. Je sais comment fonctionne le système et je vois des choses qui me surprennent et qui me font penser que c'est déjà très certainement immoral et aussi il y a des très grandes chances que ça soit illégal. Qu'une entreprise multinationale déclare dans une déclaration fiscale qu'une année donnée, elle a fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et que quelques lignes plus bas, la société n'a employé aucun salarié pour cette même année. Moi, en tant que citoyen qui est les pieds sur terre, qui est, on va dire, un simple paysan de bon sens, surprend. Comme une entreprise avec zéro salarié peut faire 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faudra qu'on m'explique. En fait, en continuant à travailler, je me tire une balle dans le pied. Je participe à un système d'évasion fiscale la journée, mais le soir, le week-end, je vois les conséquences. Ma femme, à ce moment-là, travaille justement dans l'hôpital public. J'ai un enfant qui est justement à l'école publique et qui est à le 30e d'une classe de 30. Plus proche de la garderie que de l'éducation. On parle, on l'a vu ces dernières années avec le Covid, d'hôpitaux qui n'ont pas de budget. On n'a pas les masques, on n'a pas les blouses. Donc on parle en fait d'argent public qui ne rentre pas dans les caisses, qui ne fait pas fonctionner le service public. Moi, ça me pose un gros souci parce que dans mon enfance, dans mon adolescence, une grosse partie de ma famille a travaillé pour l'administration publique. Et qu'est-ce que je fais? Si je ne fais rien, je cautionne le système. Si j'agis, comment? Et avec qui? Et la décision que je prends au bout de quelques jours, c'est de contacter le journaliste, qui me semble être le seul canal possible. Donc le journaliste qui a fait ce cache investigation, pour lui dire vous avez fait quelque chose, va dire d'intéressant, montrer le système d'évasion fiscale, sauf que c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus conséquent que ce que vous pouvez imaginer. En gros, vous avez montré la face émergée de l'iceberg. Moi, je vois la face immergée parce que j'y participe malgré moi. Je la vois au quotidien. Il y a beaucoup plus d'entreprises concernées. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur la manière dont fonctionne ce système à ce moment-là. Et parmi les sociétés avec lesquelles je discute, avec le journaliste, il y a des sociétés qui sont beaucoup plus connues des Français, comme Apple, ArcelorMittal, IKEA, que les sociétés évoquées dans le premier cache investigation, qui eux sont plutôt des groupes anglo-saxons et pas forcément très connus des auditeurs. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros et c'est un montant qui pour moi, déjà à ce moment-là, est beaucoup plus proche de l'intérêt général, de l'intérêt public, que de la simple petite magouille d'une entreprise sur un chantier de BTP. À ce moment-là, en 2012, il n'y a aucune... En tout cas, à Luxembourg, il n'y a aucune possibilité de faire monter l'information autrement. Je vais pas aller voir ma hiérarchie, et ceux qui ont mis ça. Je vais pas aller voir le commissariat du coin, lui expliquer les tax rulings, les déclarations fiscales, etc. Je me doute bien que le policier va me regarder avec des gros yeux, et ne va rien comprendre. Et il n'y a pas non plus de parquet national financier, d'organisme assez spécialisé, pour comprendre ça. Je n'en discute avec personne de ce que je fais, parce que si j'en parle par exemple à ma femme de ce que je vais faire, c'est la rendre complice. Il y a hors de question qu'il y ait des conséquences pour elle, qui n'a rien demandé, qui ne travaille pas chez PwC à l'époque. Mais en 2012, on ne parle pas ou très très peu de lanceurs d'alerte. Il n'y a aucune loi qui protège les lanceurs d'alerte, il n'y a pas de directive européenne, il n'y a pas d'organisme dédié à ça. Donc je prends une réflexion en fait seul, personnellement, sans en parler à quiconque. Une fois que j'ai transmis, que j'estime avoir fait ma part du travail de lanceur d'alerte avec le journaliste, je cherche à quitter l'entreprise pour rester en accord avec mes valeurs, c'est-à-dire faire un travail beaucoup plus dans l'intérêt général. Et donc je cherche par tous les moyens, entre guillemets, à quitter le Luxembourg. Et puis... c'est assez difficile, malgré, comme tout le monde, de passer des entretiens, d'envoyer des CV, etc. C'est assez difficile de trouver un travail ailleurs. Donc je continue comme je peux mon travail au Luxembourg. Plusieurs mois s'écoulent. On arrive à novembre 2014, où l'ICIJ, un consortium international de journalistes, sort en fait énormément de révélations, notamment avec les documents, les explications données que j'ai données aux journalistes. Et sort des révélations sur des dizaines de multinationales, Amazon, Ikea, ArcelorMittal, Walt Disney, etc., dans des dizaines de médias internationaux. C'est-à-dire qu'auparavant, nous avions un seul journaliste qui faisait des reportages, cache investigation à une portée nationale française. Autant cette fois-ci, nous avons des dizaines de journalistes, des dizaines de médias internationaux. Et donc l'impact, l'effet est dévastateur. Ça fait l'effet d'une bombe. Et c'est là, en fait, que l'affaire LuxLeaks, comme elle est nommée, LuxLeaks, les fuites du Luxembourg, en anglais, éclate, et le sujet est mis sur la place publique. C'était un peu le but, qu'on puisse parler d'évasion fiscale qui nous fait tant de mal. Et ça va aussi, quelque part, un peu inquiétant, puisque ça veut dire que les informations étant publiques, l'anonymat d'une source de journalistes ne tient qu'un fil. Et mon employeur finit par me retrouver. C'est là que ça se corse un peu juridiquement. C'est-à-dire qu'ils font une requête sur ordonnance auprès de la présidente du tribunal de grande instance de Metz pour qu'elle les autorise à venir chez moi, eux, employeurs, faire intervenir un huissier et des gendarmes, saisir mon matériel informatique et ma correspondance avec le journaliste. Ma correspondance, on entend les emails ou tout ce que j'aurais pu échanger avec lui. C'est quelque chose qui est en partie illégal. Saisir du matériel et le faire confisquer par un huissier le temps qu'il y a une enquête, c'est légal. Par contre, saisir la correspondance entre une source et un journaliste, c'est interdit. C'est quelque chose qui est assez difficile à vivre parce que il y a beaucoup de pression. Ma femme n'est pas du tout au courant de ce que j'ai fait à ce moment-là. Elle l'apprend ce jour-là. Elle est choquée par la manière dont ça se passe. C'est-à-dire que quand mon employeur est présent, il a des informations personnelles dans mon classeur que je vois, une photo de mariage, une photo de ma voiture, etc. Et c'est quelque chose qui nous choque puisque mon employeur me dit, on est dans une relation employeur-employé, etc. Depuis quand un employeur a une photo de mariage d'un de ses salariés dans son classeur? Soit il a enquêté, soit il a information d'une manière ou d'une autre. Le classeur est assez gros. Les questions qu'ils me posent sont assez conséquentes. Ils veulent exactement savoir ce que j'ai fait, quelles compagnies sont concernées, etc. Et l'huissier, les gendarmes qui sont présents dans la pièce ne comprennent pas du tout ce qui se passe, puisque eux ont fait quelque part leur travail, veiller à ce que tout se passe bien, saisir un ordinateur, lister les numéros, etc. L'huissier est censé embarquer tout ça chez lui, le mettre sous séquestre, le temps qu'une enquête par la suite se fasse. Donc ils comprennent pas, je le vois bien, ils comprennent pas ce qui se passe par rapport à l'interrogatoire privé, entre guillemets, qui a lieu dans mon salon. On leur a dit d'être présents pour que tout se passe bien d'un point de vue maintien de l'ordre. Ils sont présents, point final. Ils font en quelque sorte de la figuration. Donc c'est un interrogatoire privé, employeur-employé, alors que les gendarmes sont présents. Je leur dis... Soit c'est on reste dans cette relation employeur-employé, les gendarmes n'ont rien à faire ici. Soit c'est une enquête officielle, c'est pas à vous de me poser des questions, c'est aux gendarmes. Mais dans ce cas-là, c'est avocat, c'est commissariat, gendarmerie et c'est procédure officielle. Cet après-midi se termine comme ça avec ce directeur juridique qui réinsiste sur le fait qu'ils veulent négocier. Je trouve un avocat dès le lendemain. Et quelques jours plus tard, mon avocat a pris contact avec eux et avec leur avocat français. Ils veulent qu'on se rencontre pour mettre les cartes sur table. Donc cette fois-ci, les avocats seront présents. Ça va être dans une procédure peut-être un peu plus, pas judiciaire, mais un peu plus classique. On négocie entre avocats, on va dire un peu à l'américaine. La réunion commence vers 17h, de mémoire, elle finit vers 4h du matin, quelque chose comme ça. Et... De fil en aiguille, en fait, on signe au milieu de la nuit un accord transactionnel qui est « je dis tout ce que j'ai fait, ça a été mis par écrit, en échange je suis licencié, avec le papier qui me permet d'avoir droit au chômage. Ils ne portent pas plainte contre moi. Ils peuvent, si je parle, si je raconte qu'il y a eu cet accord, ce que j'ai fait, etc., ils peuvent me réclamer des dommages intérêts à hauteur de 10 millions d'euros, saisir ma maison et éventuellement porter plainte au pénal. En insistant bien, notamment auprès de ma femme qui s'en souvient encore aujourd'hui, que vu la somme, si c'est pas vous qui allez payer, ce seront vos enfants, vos petits-enfants qui payeront. C'est une épée de Damoclès qu'on a, que moi et ma femme avons, puisqu'elle aussi a signé cet accord transactionnel. Donc ça va être un secret entre elle et moi, qui est assez particulier, puisqu'on ne peut pas parler de ce que j'ai fait, de ce qu'il y a dans l'accord, ni même qu'il y a un accord. Il faut avoir conscience qu'à l'époque, Luxix s'est un peu mis à part quelques révélations parties par là, qui ont eu lieu par le passé. C'est le premier gros scandale financier. Depuis, il y aura Panama Papers, Panama Papers, etc. Il y a une certaine expérience des multinationales. Mais à l'époque, Luxix, c'est la première fois qu'il y a un tel raz-de-marée de révélations. Personne ne sait trop exactement comment ça fonctionne, les CSU, les journalistes, comment il faut réagir, etc. Ce qui est certain, c'est que les clients, qui sont aussi des multinationales, Amazon, Ikea, McDonald's, etc., vont mettre la pression en disant « Vous arrêtez tout, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus rien. Vous démerdez comme vous voulez, mais celui-là, vous le mettez sous cloche, on ne veut plus en entendre parler. » C'est pas agréable d'être mis sous cloche, d'avoir une épée de Damoclès. Surtout qu'on n'est que deux à partager, ma femme et moi. Mais ça reste dans ma démarche initiale, reste anonyme. Le message est plus important que le messager. Et le message, c'est l'évasion fiscale et toutes les problématiques qui vont avec. C'est pas forcément facile de vivre pendant un an et demi comme ça, avec un huis clos. Mais on va dire qu'on s'en accommode pendant un an et demi. Au bout d'un an et demi, donc de huis clos, le juge d'instruction au Luxembourg finit par apprendre mon nom. Et à partir de là, c'est le processus judiciaire classique qui s'enclenche, c'est-à-dire audition et premier procès à Luxembourg. Premier procès, c'est 1 000 euros d'amende avec la justification que je suis lanceur d'alerte, que les révélations n'ont pas été contredites, qu'elles sont d'intérêt public et que voilà, ça peut être considéré comme un apport au débat public. Totalement incompréhensible de ma part, pourquoi avoir une amende en étant conforté dans ce statut de lanceur d'alerte. Et comme je trouve ça totalement injuste, je décide immédiatement de faire appel. Et on arrive à cette confirmation de 1 000 euros d'amende. On part quand même au tout début de 10 millions d'euros de dommages intérêts qui pourraient être réclamés, plus la saisie de ma maison, à 1 000 euros d'amende. Ça valait le coup de se battre pendant toutes ces années. Et c'est la même chose, totalement incompréhensible. On peut pas être à la fois lanceur d'alerte et être condamné. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Il y a des lois qui s'appliquent. Il y a une jurisprudence européenne. On en commençant à parler beaucoup de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'applique, qui dit que, en gros, si on respecte ces critères, on est lanceur d'alerte, on doit être innocenté, point barre. Pour moi et mes avocats, on respecte ces 6 critères, on doit être innocenté, c'est mathématique, ça doit être carré. Vous savez, dès le début, je me dis, ça va être un marathon judiciaire. Je sais que j'en prends pour des années. Quand je fais de la course à pied, je sais qu'un marathon, il y a des moments où il va falloir serrer les dents, des moments où ça va être difficile financièrement ou socialement ou autre. Mais il faut garder le cap. Le cap, c'est la ligne d'arrivée. À aucun moment, je ne peux savoir comment ça va se terminer. Mais en tout cas, je veux pouvoir dire, je n'ai jamais abandonné. J'ai beaucoup de soutien sur Internet. Chacun a pu donner et peut donner ce qu'il veut en fonction de ses moyens sur notre site, sur luxix.fr. Je ne remercierai jamais assez. Moi qui n'aime pas demander, justement, c'est d'avoir tous ces soutiens anonymes qui ont pu participer. Et donc, cette forme de réflexion d'intelligence collective est très réjouissante parce que ça montre qu'ensemble, on peut changer des choses, qu'on veut changer des choses et qu'il va falloir que les choses changent. Du coup, trouvant tout ça totalement injuste, je fais appel en cassation. Et cette cour de cassation maintient cette amende de 1 000 euros. J'attaque donc le Luxembourg à la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est à Strasbourg, avec l'argument à la fois très simple et dit comme ça, mais qui est très compliqué juridiquement à argumenter, qui est, il y a une jurisprudence très faible mais existante, il y a un cas qui concerne un employé public en Moldavie. J'estime que ce cas doit s'appliquer à moi. Du coup, j'attaque le Luxembourg. pour faire appliquer les règles européennes, tout simplement. Le 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin, hasard du calendrier, après 8 ans de combat judiciaire, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que j'étais un lanceur d'alerte à 2000% et a condamné Luxembourg pour tout ce qu'il m'a fait subir au cours de ces 8 ans. Et elle a surtout reconnu une avancée importante qui est de respecter 6 critères qui permettent de définir un lanceur d'alerte. C'est extrêmement important parce que ça permet de dire qu'un employé d'une entreprise privée peut faire des révélations dans l'intérêt général, quelles que soient les conséquences de ces révélations pour cette société. En gros, elle dit d'une autre manière, l'intérêt général passe avant l'intérêt d'une entreprise. À Luxembourg, la CEDH est condamnée à me rembourser une partie, une toute petite partie de mes frais d'avocat, c'est-à-dire sous forme de dommages intérêts et compenser le préjudice moral qui m'a fait subir avec ces 3 procès à Luxembourg. Alors, au final, financièrement, oui, il y en a largement perdant. Alors, les seuls qui gagnent dans une affaire comme ça, ce sont les avocats des deux côtés, financièrement parlant. Mais bon, on sait très bien quand on va à la Cour européenne des droits de l'homme qu'on n'y va pas pour l'argent, pour se faire rembourser les frais. On y va pour avoir une victoire morale et pour avoir, dans mon cas en tout cas, très spécifique, d'avoir un arrêt jurisprudentiel au niveau européen, voire mondial, qui puisse servir à d'autres par la suite. Un arrêt qui s'appelle Aller contre Luxembourg 2023 et qui maintenant est cloué sur Internet. C'était pas du tout le but au départ de rentrer dans le droit européen, mais moi qui voulais rester anonyme, ben maintenant il y a mon nom partout.
One was just the first son to carry the burden. I was barely a person. My folks were young but committed to keep up their end of the bargain, protect me from harm and grow a garden. I was loved, I was fed, might sleep through the night. I was taught how to talk and how to read you from left to right. I learned to argue and fight from a distance where my vulnerability gets no recognition. And by the time I was 11, I was already defensive. An extension of environment and reinforced messages. Preemptively believed eventually I'll be a failure to my family and friendships. And when you mix it and blend it with contemporary pressures of adolescence, emphasis on the consensus of a book full of portraits, but didn't consider that we've been sketching stick figures underneath bigger pictures.
C'était Raphaël Allais, lanceur d'alerte des LuxLeaks, un reportage de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Somaya Dabesh. Merci bien sûr au principal intéressé, à Raphaël Allais, ainsi qu'à Céline Paris, notre attachée de production, et à Rita Ruggirello, notre stagiaire.
And on my 21st birthday, already had my firstborn baby boy, and maybe homie saved my life. But papa kept the motor running, I'ma come and see you later. Trying to color up some paper, trying to make this right. I realize most experiences are coincidental, but I'll never let go of these regrets I hold. That's why the pieces that were missing always felt more special. Better bring some bigger pencils to sketch my soul. But yo, when I was 31, both ends burning. Thought that I was lost in the jungle, but I was in search of something. Learning how to deconstruct my puzzle. Permanently nervous, I was in love with the hustle. The devil went to hell just to sell that selfishness. They tried to make me feel important, I fell for it. Embarrassment, trepidation, plus a healthy dose of self-imposed limitations over my own illustrations. And when I struggled with the number 41, I had a couple more sons. And it feel like my real life had just begun. It's getting harder to translate. It's likely I've already played my part of this landscape. And all of this time I've been following my design, trying to find a little solace in how the stars aligned. It kind of looks like glitter, but every pixelated flicker gets the proper position in the biggest of pictures. And when I was 51, thank you.
on and on and on. On and on and on and on. On and on and on and on. On and on and on and on.